Okay, on va continuer notre série sur la sanctification. Ce soir, on est dans notre 18e leçon. Et le titre, c'est « Les avertissements que le Seigneur donne aux églises visibles ». On peut prendre le texte d'Apocalypse, chapitre 3, verset 22, comme verset d'entrée dans le sujet. Ça dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est intéressant de voir que dans les messages aux sept églises, le Seigneur parle à des individus parce qu'il dit que celui, quand on parle de celui, c'est un pronom personnel. Donc, ça veut dire qu'il parle à chacune de ces églises, mais de façon individuelle, les individus qui composent les églises. Alors, on prend pour acquis que les auditeurs de ce sermon appartiennent à une église visible, on le sait. On appartient, nous, à les réformés baptistes, il y en a d'autres, c'est d'autres dénominations. Et bien sûr, si on n'est pas des athées, ce verset-là s'adresse à nous comme individus professants. Alors, l'expression « que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Église dit aux Églises » est répétée 7 fois dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Pensez-vous que c'est un hasard, le chiffre 7? Chiffre 7, le Seigneur répète la même chose 7 fois, que celui qui a des oreilles écoute ce que le Seigneur dit aux églises, ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, c'est sûr, c'est certainement pas un hasard. Tout dans les Écritures a une intention, un but, et ça fait partie d'un plan. Alors, on le sait par le pronom personnel « celui » que le Seigneur adresse un message particulier et personnel aux individus croyants. Donc, ce soir, le Seigneur parle à chacun d'entre nous personnellement. Alors, c'est facile de le voir, il parle aux églises, oui, mais il parle aux églises comme individus. Alors, on va examiner quelques vérités que le Seigneur donne. Alors, quand on regarde l'ensemble des messages du chapitre 2 et des chapitres 3, du chapitre 3 de l'Apocalypse, on voit que le Seigneur ne parle pas de choses le baptême ou des choses comme ça, ou le gouvernement de l'Église. Il parle de doctrine, il parle de pratique, il parle d'avertissement et il parle de promesses. Prenez votre chapitre 2, votre chapitre 3, analysez-les en détail, vous allez voir que ces quatre choses-là reviennent continuellement. La doctrine, la pratique, des avertissements et des promesses. Alors, quand on lit les sept lettres aux églises, on observe que le Seigneur Jésus signale dans certaines églises des fausses doctrines, dans d'autres dénonce des pratiques inappropriées et dans d'autres adresse des réprimandes sévères. Et là, il parle à nous personnellement. Ça veut dire qu'il y a des choses à nous reprocher en termes de doctrine, en termes de pratique, en termes, s'il nous fait des réprimandes, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on se doit de changer. D'autres fois, il les loue pour leur foi, pour leur patience, pour leur travail, pour leurs œuvres et pour leur persévérance. Et parfois, il leur adresse des éloges. Quand vous lisez les 7 lettres, là, tout ça est dans les 7 lettres. Parfois, et les encourage à la repentance. S'il nous parle à nous personnellement, toutes ces choses-là, là, il nous dit ça à nous aussi. Là. Alors, il nous encourage à la repentance, il nous encourage à amender nos voies, à changer les voies qu'on a prises. Et il nous recommande aussi de retourner à notre premier amour. Moi, combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie chrétienne, des gens dire, « J'étais bien plus allé quand je suis venu au Seigneur que maintenant. » C'est-tu normal? On se devrait d'être plus zélé, plus on a d'années de vie chrétienne, plus on devrait être zélé. Parce que plus on connaît le Seigneur, plus on l'aime, plus on devrait être en forme pour le servir. Alors, le Seigneur souvent va demander de retourner leur premier amour et il va souvent leur demander de se consacrer davantage à lui. Il nous demande la même chose à nous tous. Alors, il ne parle pas de gouvernement d'Église, il ne parle pas de cérémonie, il ne parle pas de sacrement, il ne parle pas d'ordonnance, il ne parle pas de succession apostolique. On pourrait penser, que c'est des choses importantes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, les Écritures, mais le Seigneur, dans ces messages-là qu'il adresse aux Églises, il ne parle pas de ces choses-là. Il parle juste de doctrine, de pratique, d'avertissement et de promesse. On peut faire un parallèle avec le comportement que Paul a eu juste avant qu'il quitte l'église d'Éphèse pour s'en aller à Jérusalem. On sait qu'il a réuni les anciens, et là, il ne leur a pas parlé de baptême, il ne leur a pas parlé de gouvernement d'église. Il s'est concentré, la même chose que le Seigneur fait dans l'Apocalypse, sur des choses essentielles. Acte 20, versets 27 à 35, Paul dit « Car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous avec larmes. » Hey, on parle de Paul. Nuit et jour, ça veut dire qu'il n'a pas lâché durant tout le temps qu'il était avec eux autres à essayer de les amener plus proches du Seigneur. Et là, il dit aux évêques, aux pasteurs, il dit « Maintenant, frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et vous savez vous-même que ce sont ses mains qui ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, on voit à l'intérieur soit des paroles que le Seigneur donne aux églises, comme ce que Paul dit aux évêques avant de quitter Éphèse. On voit que les sujets comme la repentance, la foi envers le Seigneur Jésus-Christ et une vie sérieuse dans la sanctification est d'une importance essentielle pour nos âmes. Sans ces choses, personne ne peut être sauvé. Il semble que ceux qui professent être chrétiens de nos jours appartiennent à l'un des deux camps suivants. Ou ils appartiennent à une grande religion organisée qui est formaliste et centrée sur l'argent. Ou une religion éminemment personnelle entre une personne et le Christ. Seule l'appartenance réelle à Jésus-Christ nous assure le pardon des péchés et nous remplit d'assurance pour le jour du jugement. Bien sûr, à l'intérieur de tout ça, la centralité des Écritures est primordiale. Plus une Église s'éloigne des Écritures, plus elle s'écarte puis elle risque de s'égarer, plus on se tient proche des Écritures et qu'elle demeure le centre de nos cultes, le centre de nos vies, plus à quelque part on a des chances de vivre dans l'obéissance. Et ce sont des choses qui sont vraiment essentielles pour les véritables croyants. Donc, le premier point à remarquer, que dans les deux premiers chapitres de l'Apocalypse, le Seigneur nous parle de doctrine, de pratique, d'avertissement et de promesse. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est que le Seigneur Jésus dit à 7 reprises encore. Le chiffre 7 dans l'Apocalypse, c'est vraiment extraordinaire de remarquer le nombre de fois qu'il revient. Et dans quel contexte? Il dit l'expression « Je connais tes œuvres » à 7 reprises. Il ne dit pas « Je connais ta profession, je connais tes désirs, je connais tes résolutions ». Il dit pas non plus « Je connais tes souhaits », il dit « Je connais tes œuvres ». Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner? L'omniscience de Dieu. Il n'y a rien qu'on fait pour lui, même si personne dans l'Église a vu. Disons que j'aurais fait une bonne action ou que vous auriez fait une bonne action. Personne ne l'a vu, mais le Seigneur, lui, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas une parole que vous avez dit pour encourager quelqu'un. Il n'y a pas un geste que vous avez fait pour aider quelqu'un que le Seigneur n'a pas vu qui s'est inscrit dans son grand livre. Alors, il dit « Je connais tes œuvres ». Parle de nous autres individuellement. Alors, les œuvres d'un chrétien professant sont d'une grande importance. Toutes les Écritures en parlent. La foi sans les œuvres est une foi morte. Elles ne peuvent pas le sauver, ne peuvent pas le justifier, ne peuvent pas délivrer de la colère de Dieu, ne peuvent pas effacer les péchés, nos œuvres. Cependant, les œuvres sont des évidences de l'authenticité de la foi d'une personne. La preuve, c'est quand on va voir dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, au verset 20 à 26, le Seigneur nous parle de la foi de deux personnes, Abraham et Rahab. Abraham, on dit que c'est le père de la foi, Rahab, c'est une prostituée. Alors, quelque part, le Seigneur vient donner l'exemple que la foi se démontre par nos œuvres. Si on n'a pas d'œuvres, à quelque part, c'est peut-être un signe qu'on n'est pas régénéré. Alors, Jacques 2, versets 20 à 26, ça dit, « Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi, sans les œuvres, est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. De même, aussi, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut des messagers et les fit sortir par un autre chemin. Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Luc 6, verset 43 à 46. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il n'y a point de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. Car chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne cueille pas des raisins sur un buisson. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Quelque part, quand on Seigneur, Seigneur, puis vous lirez le chapitre 7, moi, c'est un chapitre qui m'a tellement marqué, à un moment donné, ça m'a frappé, ce passage-là, où le Seigneur nous dit, quelqu'un qui va arriver du jugement, il y en a qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci pour ça, pour ton âme, Seigneur, il dit, retirez-vous de moi, maudit, vous tous qui commettez l'iniquité. Alors, quelque part, une foi sans œuvre, une foi sans obéissance, est une foi morte. Alors, le Seigneur voit continuellement nos œuvres. Rien ne lui échappe. Le moindre mot gentil, la moindre bonne action, la moindre action délicate, la moindre pensée, le moindre soupir, même le Seigneur entend et voit nos soupirs. Son regard de flamme voit absolument tout. Toutes choses sont manifestes devant lui. Toutes les œuvres des incroyants seront punies, si on sait ça. Il dit, « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Autrement dit, aux yeux de Dieu, tout ce qu'un homme a fait dans sa vie, ses paroles, ses actions, ses gestes, tout, ça fait partie de ses œuvres, et il va être jugé selon ses œuvres. Maintenant, est-ce que les œuvres des croyants sont pesées par le Seigneur? 1 Samuel, chapitre 2, verset 3, ça dit, « Ne proférez pas tant de paroles hautaines Que de paroles arrogantes ne sortent pas de votre bouche, car l'Éternel est le Dieu fort qui sait toutes choses, et c'est par lui que les actions sont pesées. Toutes les œuvres des croyants, on le sait à cause des Écritures, seront récompensées. C'est drôle des fois, parce qu'on se dit, disons que tu vas reconduire quelqu'un avec ton auto. Ça a l'air à rien, hein? Ça a l'air, c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit que même ces petites choses-là, il nous dit même un verre d'eau qu'on a donné au plus petit entre les siens, on va avoir des récompenses pour ça. Moi, une année, je suis tombé sur une lecture, il faut que je la partage, parce que ça m'a frappé. Ça dit que des fois, on fait des bonnes œuvres envers les autres en régimbant. Ouais, on chiale un peu pour faire telle affaire. Mais on ne se rend pas compte du privilège qu'on a de rendre service, de faire des choses bien pour le Seigneur, parce que le Seigneur, il dit, quand vous les avez faites au plus petit d'entre les miens, pensons à ça, là. Quand on a fait un service au plus petit d'entre les siens, c'est à moi-même que vous l'avez fait. On se rend-tu compte? Plus on rend service au monde, plus on devrait se rendre compte que ce n'est pas à la personne que je rends. Oui, j'y rends un service, mais dans le fond, en faisant ce service-là, j'y rends service au Seigneur lui-même. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans quand on se met à réfléchir à ça. Alors, toutes les œuvres des croyants seront récompensées. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. « Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre selon son propre travail. » Voici un sévère avertissement pour les hypocrites et les gens pour qui la religion de Christ n'est qu'une apparence et une vie enracinée dans le monde. Ces personnes peuvent tromper les pasteurs et d'autres croyants, mais ils ne peuvent pas tromper Christ. C'est lui, par exemple, le Seigneur, qui a découvert les faux croyants de l'église de Sardes. Quand on lit l'église de Sardes, il dit, regardez, c'est sévère ça. Le Seigneur, il parle à des croyants individuellement, il dit, « Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Il parle d'un individu, là. « Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Après ça, il dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir. » Après ça, il parle de l'apostasie de l'Église à Laodicée, où il dit d'elle qu'elle est malheureuse, qu'elle est misérable, qu'elle est pauvre, qu'elle est aveugle, qu'elle est nue. On parle de gens d'Église, là. Il dit, autrement dit, il est en train de dire, il y en a qui sont dans les églises, mais ils n'ont rien compris du tout. Alors, malgré toutes les faiblesses et les imperfections des œuvres des croyants, le Seigneur reconnaîtra celles que nous avons faites avec un désir sincère de lui plaire. Son œil peut discerner l'excellence de la moindre chose qui est un véritable fruit de l'Esprit. Psaume 103, versets 13 et 14. « Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent, car il connaît de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière. » Troisième point qu'on va regarder, le Seigneur fait une promesse à celui qui va vaincre. À 7 reprises encore une fois, 3 fois là. 7 reprises, je connais tes œuvres, 7 reprises que celui qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À 7 reprises, le Seigneur fait des promesses à celui qui vaincra. Ces promesses sont excessivement grandes et précieuses. Chacune des promesses est différente et constitue une forte consolation pour le chrétien qui lutte contre le péché, qui lutte contre le monde, qui lutte contre le diable. Nous devons être des soldats victorieux, vaincre l'amour du monde, vaincre la peur de l'homme, vaincre nos passions, vaincre nos tempéraments et vaincre les convoitises de nos cœurs. Résistons au diable de manière... Est-ce qu'on résiste au diable de manière à ce qu'il s'enfuit, il s'enfuit loin de nous? Nous devons vaincre le péché en le mortifiant, vaincre le monde en s'en éloignant et vaincre le diable en lui résistant. Le combat sera pour chacun des chrétiens rude, quotidien et difficile. On prend des exemples. Moïse, qui a vaincu l'amour du monde. On le sait, les Écritures dans Hébreux, chapitre 11, verset 25, parlent de l'amour du plaisir. Il a abandonné toutes les choses pour le... Michée, le prophète, lorsqu'il refusa de prophétiser des choses plaisantes au roi Achab, même en sachant qu'il serait maltraité et persécuté, en disant la vérité, il a vaincu l'amour de ses aises. Daniel, lorsqu'il refusa de prier son Dieu, même sous la menace d'être jeté dans la fosse aux lions, il a vaincu la peur de la mort. Matthieu, l'apôtre qui abandonna son métier de collecteur d'impôts pour les Romains, il a vaincu l'amour de l'argent. Pierre et Jean, qui affrontèrent bravement le Sanhédrin et leurs menaces, ils ont vaincu les deux la peur de l'homme. Paul, lorsqu'il abandonna tous ses privilèges de leader religieux, il a vaincu l'amour de la louange des hommes. Chacun d'entre nous peut avoir à combattre avec et vaincre ces choses-là qu'on vient de nommer. Ces hommes étaient tous de même nature que nous, avec les mêmes passions que nous. Cependant, ils vainquirent tous. Quel est le secret de leur victoire? Leur foi. Jacques 1, versets 22-25. Ici, il y a un conseil que le Seigneur nous donne. Et soyez observateurs de la parole, et non pas seulement auditeurs, vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir son visage naturel, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui se sera baissé pour regarder dans la loi parfaite, qui est celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublieux, mais observateur pratique, celui-là sera bienheureux dans son espérance. L'auteur que j'utilise dit la phrase suivante, dit « La nuit est avancée, le temps est court et le Seigneur est à la porte. Nos ennemis sont nombreux et puissants, mais le capitaine de notre salut est infiniment plus puissant qu'eux. » 5 applications très rapidement. Première application, soyons avertis. Ne vivons pas seulement pour ce bas monde, surveillons nos voies et nos cœurs. Pensons toujours à l'éternité. 2e application, méfions-nous de toutes les formes de formalisme et de justice propre. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous allons régulièrement à l'Église, que nous prenons le repas du Seigneur, etc. Avons-nous des évidences de la régénération, de la nouvelle naissance dans nos vies? Manifestons-nous des preuves de repentance authentique? 3e, restons les yeux fixés sur les réalités spirituelles. Le ciel, l'enfer, le diable, la personne de Christ, les saintes écritures, etc. 4e, sentons avec force que le vrai christianisme a des standards élevés et profonds. Ne nous contentons pas de formalisme, de marcher dans le chemin large et spacieux. 5e, dernièrement, progressons constamment dans la connaissance de soi, dans l'amour de Christ et du prochain, dans l'humilité, dans la conformité à l'image de Christ. Soyons comme l'Église de Smyrne et de Philadelphie. Si on retournerait dans le chapitre 2, on verrait que c'est les deux églises que le Seigneur leur donne le plus d'éloges. Alors, par sa grâce et pour sa gloire, Amen.